Et salut, très rapidement, si tu aimes le podcast et que tu veux le soutenir, n'hésite pas à partager les épisodes autour de toi, à mettre 5 étoiles partout où c'est possible, à commenter sur ton appli de podcast et à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Merci.
Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées et après j'ai pleuré.
Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. L'instinct maternel n'existe pas. C'est une invention sociale, notamment du système patriarcal. Mais pas du tout! L'instinct maternel, ça existe. Il y a plein de femmes qui disent qu'elles le ressentent, que c'est ça qui a provoqué leur envie d'enfant, que c'est ce qui leur permet de tenir le coup avec leur gamin tous les jours. Et si la réponse était un petit peu plus nuancée que ça? Dans cet épisode, j'ai le grand plaisir de recevoir à nouveau Ingrid Bayot. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à écouter la partie 2 du dossier sur l'allaitement que vous trouverez dans la saison 1 de ce podcast. Ingrid Bayot cumule la connaissance, la science, l'expérience et la curiosité, justement aussi sur ce sujet. Elle a écrit un article qui est nommé, comme ce podcast, « L'instinct maternel, réalité et controverse ». Vous trouverez en description de ce podcast un lien vers cet article qui a servi de base sur ma réflexion et bien sûr sur l'invitation d'Ingrid Bayot à me rejoindre pour échanger dessus. Je la remercie encore pour sa présence. Vous allez voir que nous partons assez loin, que nous allons même digresser un petit peu, mais je ne vous cache pas que j'adore digresser avec Ingrid Bayot, donc j'espère que votre plaisir sera égal au mien. Je vous souhaite une bonne écoute et nous commencerons par cette première question. C'est quoi l'instinct maternel ?
Vaste question, hein, parce que cette expression a eu tellement de définitions différentes que quand quelqu'un dit qu'il n'existe pas, il faut voir ce qui dans sa tête n'existe pas. Et quand quelqu'un dit que ça existe, il fait référence à quoi ? Et là aussi, nous avons des définitions individuelles et des ressentis individuels qui sont très variables d'une personne à l'autre et qui vont plus en lien avec sa vie privée. Quand ça existe, c'est souvent en lien avec une vie privée et la résonance est très affective. Hein, et c'est des gens qui vont exprimer des choses très fortes pour eux, pour elles. Et ceux qui disent que ça n'existe pas, en général, c'est en s'appuyant sur des faits historiques, mais qui sont quand même des faits historiques assez récents. Parce que moi, quand je dis 500 ans, c'est récent. Hein, dès qu'on se met à réfléchir à notre espèce, il faut prendre minimum un recul de 300 000 ans, s'intéresser à l'archéologie, à la paléontologie, même si ce n'est pas ma profession, je peux quand même lire sur la question et je lis depuis longtemps. C'est essayer de comprendre ce qui a été mis en place pour notre espèce et qu'est-ce qu'on entend par instinct maternel. Voilà. Alors, déjà, si on regarde le dictionnaire, l'instinct fait référence à quelque chose qui est spontané, naturel. Enfin, c'est encore le mot naturel étant très frelaté dans notre espèce aussi, parce que qu'est-ce qui est naturel, qu'est-ce qui est culturel dans notre espèce, comme dit Cyril Nick, nous sommes naturellement culturels, donc voilà, on va essayer de démêler un peu tout ça. Mais ce que j'avais retenu dans les définitions de tout ce qui est instinct, outre la spontanéité, c'était l'observation de comportements généralisés à l'espèce. Et ça, c'est vrai que si on regarde l'histoire connue, l'histoire récente, c'est-à-dire dès qu'il y a écriture et dès qu'il y a trace d'écriture et possibilité d'étudier les lois humaines comme les civilisations égyptiennes, romaines, grecques, dont surtout les deux dernières, hein, grecques et romaines, dont nous émanons directement, on voit que on doit tout le temps rappeler aux femmes leur devoir de procréer, mais nous sommes déjà dans des cultures extrêmement patriarcales où les femmes n'ont aucun droit. Et quand on observe les faits et réalités de ces cultures-là, et surtout de ce qui s'est passé chez nous à partir de temps moderne, c'est-à-dire la Renaissance et l'industrialisation progressive et l'urbanisation progressive, je vois très mal défendre la notion d'instinct maternel. Les types de comportements que l'on va voir vont être tellement variés qu'on ne peut pas parler de généralisation pour l'espèce. Maintenant, ça vaudrait la peine de creuser un peu.
Bien creusons.
C'est ça. Alors, ça fait quand même quelques dizaines d'années que je me pose la question, comment se fait-il que sur cette planète, l'évolution ait pu permettre l'émergence d'une espèce, l'espèce Homo, et plus particulièrement les sapiens, qui sont doués de langage, qui sont doués d'un cerveau social et créatif absolument phénoménal, mais dont la stratégie de reproduction inclut des bébés qui naissent immatures et extrêmement dépendants de leur mère et des gens autour de leur mère pendant si longtemps, parce que bon, un instinct maternel, c'est une sage, ça l'implique pour 3 mois. Hein. Chez nous, c'est un peu plus. Voilà, c'est nettement plus. Voilà. Ce que je réalise progressivement, c'est que oui, il y a eu des facilitateurs de comportement chez les mères qui émanent de l'évolution, parce que nous faisons partie des mammifères et nous émanons de l'ordre des primates, qui a une stratégie de reproduction à forte implication parentale avec un nombre de petits très faible, ce qui chez les sapiens va être encore plus important, puisque l'espace prévu en deux naissances semble être de 3 à 6 ans. Hein, et pas la reproduction stakhanoviste qu'on a vu arriver avec la sédentarisation, enfin ça on pourra en parler après, hein, mais des naissances beaucoup plus rapprochées et puis les guerres qui ne vont plus arrêter, ça fait 2-3 000 ans qu'on est dans les guerres, hein, n'en plus finir, et que donc forcément la chair à canon, il faut bien qu'on la produise. Et donc là on a eu des discours de la part des dirigeants qui étaient aussi des chefs d'armée, des discours extrêmement natalistes. Et donc dans ces périodes-là, non seulement patriarcales, mais hiérarchiques, militaires, expansionnistes, le besoin en chair humaine a été énorme. Et donc, on a eu un discours qui a dérapé vers le discours nataliste et soins minimum autorisés. Mais ça, c'est l'époque récente. Donc, je reviens à ce qu'avait prévu l'espèce. Nous sommes des petits groupes, pas vraiment des prédateurs. Nous étions quand même sans griffes, sans carapaces, sans ce qui a fait qu'on a survécu et puis qu'on s'est développé, c'est notre intelligence, notre créativité, mais surtout notre capacité à vivre en groupe. Et que ces capacités sociales, le cerveau humain est un cerveau social, a besoin d'un développement intensif et a besoin vraiment de beaucoup de soins. On dit toujours que le bébé naît immature à cause de la taille de la tête par rapport au bassin féminin qui s'est redressé, etc. C'est vrai, mais ce n'est qu'une seule des explications. Il y a aussi qu'un bébé sapiens a besoin d'interaction pour se développer. Et là, je ne parle pas de survie, je parle de développement. Parce que, curieusement, dès qu'on parle des bébés, on ne parle que de survie, je ne sais pas pourquoi, alors que le bébé doit se développer. Survivre, c'est juste ne pas mourir. Dès qu'on parle de nos ancêtres, et bon, la paléontologie, l'anthropologie est née au XIXe siècle, du haut de leur certitude d'hommes blancs, avec leur mission civilisatrice, alors que ça fait 2000 ans qu'ils étaient en guerre et qu'ils n'arrêtaient pas de se battre. Leur colonisation aussi et la condescendance pour les peuples premiers, on a vu nos ancêtres comme des brutes épaisses. Hein, il y a encore des films qui véhiculent ça, il n'y a pas longtemps, des brutes épaisses qui se promènent avec un gourdin sur l'épaule en tirant leur femme par les cheveux. C'est vraiment débile. Si je regarde les illustrations de mes livres d'enfants, ben c'est ça que je vois, quoi.
Ah oui, tout à fait. Oui.
J'en ai vu encore une dernièrement, ils sont dans un univers minéral, alors que nous originons de la bande tropicale de la planète où il y avait de la verdure partout, avec de perdus sales, tout nus, parmi des carcasses d'animaux, ils ne mangent que de la viande, alors que maintenant c'est de plus en plus étayé, 70% de l'alimentation, ce n'était pas de la viande et c'était récolté par tout le monde. Donc, y compris les enfants, les femmes et les vieillards. Donc la viande, c'était occasionnel. Et donc, oui, il y a de la collaboration, mais pas juste autour de la chasse. Et c'est là où je réalise que cette collaboration entre humains et le langage que ça a fait émerger était bien plus autour des enfants que de la chasse. Et ça, c'est la grande thèse de Sarah Blafferdy dans son deuxième livre, 2016, en français, « Comment nous sommes devenus humains ». À ça, Sarah Blafferdy, ça c'est vraiment une anthropologue qui a un autre regard, Patou Matisse en France aussi d'ailleurs, Marine Patou Matisse qui a aussi un autre regard et qui remet en question l'image de grosse brute belliqueuse qu'on a véhiculée pendant tout le 19e siècle et une partie du 20e. Il est vraiment temps de sortir de ces images vraiment débiles, sans vouloir non plus tomber dans l'image paradisiaque des humains pacifiques qui s'entendaient, qui chouchoutaient. Non, les humains sont ce qu'ils sont là, mais ils avaient quand même, le développement des capacités sociales était indispensable pour pouvoir survivre et se développer dans une nature. Bon, il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de il n'y a pas de frigo, il n'y a pas de lit, il n'y a pas de maison fermée, donc oui, la maîtrise du feu a amené beaucoup de confort, ça a certainement amené quand même une facilité à se défendre des bêtes sauvages, à leur faire peur, mais l'organisation sociale a été absolument primordiale. Et notamment autour des plus vulnérables, les sapiens, qui étaient les enfants, les bébés et puis les enfants. Hein, la réussite de l'espèce sapiens au départ n'est pas tant les armes que la capacité des groupes à faire survivre et se développer des bébés qui naissent très immatures et la dyade mère-bébé qui était particulièrement vulnérable par rapport aux prédateurs et par rapport à la nature en général. Et donc, dans un premier temps, ceux qui ont survécu et qui se sont développés, parce que j'aime bien dire les deux à chaque fois en même temps, survivre et se développer, c'était ceux qui avaient des stratégies non seulement reproductives de forte implication parentale auprès du bébé, mais des implications groupales aussi. Donc, il y a le groupe autour de la mère. Donc, on peut discuter à l'infini de l'implication du père à ces époques-là ou non. Moi, quand je vois avec quelle facilité ceux qu'on n'empêche pas de le faire y arrivent sans problème, ben, je me dis qu'ils devaient le faire. Ça doit être intrinsèque à l'espèce humaine. N'oublions pas que la fameuse chasse dont les anthropologues du 19e siècle ont fait l'activité principale des hommes, elle était occasionnelle. Ça leur laissait quand même pas mal de loisirs pour vivre avec des gens de tout âge. Non, mais c'est ça qu'il faut réaliser. C'est que les hommes adultes, les hommes jeunes, bon, c'est sûr qu'ils devaient... c'était ceux-là qui devaient défendre la tribu, c'était sans doute ceux-là qui marchaient au début du groupe, à la fin du groupe, ou qui se relayaient la nuit sans doute pour permettre au groupement de dormir en sécurité. Mais enfin, ils vivaient quand même avec des gens de tous les âges, des hommes, des femmes, leurs sœurs, leurs mères, leurs tantes, leurs oncles. Je veux dire, c'est le fait d'enfermer des hommes ensemble, ça date des ce qu'on appelle des civilisations belliqueuses. C'est-à-dire quand on s'est mis à créer des armées où les hommes ont été enfermés entre hommes jeunes. Et là, la culture du viol a commencé, parce qu'une des grandes récompenses de cette abstinence obligatoire de l'armée, c'était le pillage des villes. On allait chercher toutes les richesses, et y compris les femmes. Donc les femmes faisaient partie de la récompense et on violait tout le monde. Et c'est resté, hein, si vous regardez la soi-disant libération de Berlin par les troupes russes en 1945, ça a été un carnage. Hein. Les quelques femmes qui survivaient là, ils sont passées, mais à la casserole, c'est à vomir quand on lit les témoignages, enfin les rares témoignages des femmes qui ont osé parler. C'est une atrocité sans nom. Donc je veux dire, enfermer des hommes entre eux n'est pas naturel. Et quand on décrit les comportements des hommes qui sont comme ça entre eux, qui apparaît normal au 19e siècle, tout le monde trouvait ça normal puisqu'il y avait des armées partout. On a fait l'éloge de la virilité, mais c'est une virilité qui est mutilée, mais vraiment mutilée de son implication dans la collectivité. Hein, la combativité masculine était là pour protéger, pas pour massacrer et violer. Et donc, souvent on parle des horreurs qu'ont vécues les femmes et tout ça, du côté masculin, il y aurait une belle recherche à faire à ce niveau-là, parce que pour moi, les hommes se sont fait avoir autant que les femmes dans ces cultures, ces soi-disant civilisations extrêmement violentes dont nous hébergeons pour le moment et qui n'ont pas fini. Manifestement, elle est...
Alors, ils se sont fait avoir sur le plan humain, sur le plan matériel, par contre, et en termes de position de pouvoir, on va pas trop se plaindre.
Disons que c'est une illusion d'optique, parce que quand même, ceux qui, sur le plan matériel, ceux qui gagnaient, c'était ceux de l'élite. Hein, c'était
oui, tout à fait.
Si vous regardez le statut des mineurs de fond début du 20e, c'est quand même pas terrible. Hein, les hommes n'avaient pas beaucoup de droits. Hein. Par contre, on leur a donné un hochet, j'appelle ça. On leur a dit qu'ils étaient chefs de famille, et donc la violence qu'ils subissaient, ils avaient le droit de la faire subir à leurs femmes. Donc, c'est vrai qu'à un statut social égal, il valait mieux être un homme, disons. Mais passer 12 heures dans la mine dans le fond, se faire exploiter à l'usine, être conscrit pour l'armée, c'est une catastrophe. Hein. Regarder un cimetière militaire et regarder l'âge des gars, c'est une horreur. Quoi.
C'est vrai qu'il y a une vision de classe à garder à l'esprit dans ce cours-là, tout à fait.
Oui, Catherine de Médicis s'en servait mieux que le paysan de la même époque, disons. Mais enfin, bon, ça mis à part, pour revenir sur notre sujet,
oui.
C'est toujours, il faut repenser comment est-ce qu'on a pu fonctionner en groupe dans une nature qui était quand même menaçante, hein, il y avait quand même beaucoup de dangers, nous n'étions pas, tant qu'on n'avait pas les armes, on n'était pas vraiment des prédateurs. Enfin, ça, Dieu merci, on a pu trouver des armes défensives assez rapidement. Et cette notion-là de groupe de tout âge, si vous voulez, c'est ça qui a permis à l'entité mère-enfant de survivre et de se développer et de créer à travers le soin à l'enfant la première étape de la construction de son cerveau social. En sachant que très rapidement, si l'enfant est assez, il y a une trop grande dépendance, codépendance au départ, hein, c'est pour ça que j'écris le quatrième trimestre, cette codépendance, elle est très forte, on le voit bien les premières semaines, les premiers mois, les mamans qui plongent dans la maternité, elles ont aussi besoin de leur bébé proche d'elles, mais très rapidement, on va voir qu'à travers le réseau qui les ont confiance, elles vont confier leur bébé. Et c'est un mouvement qui part de la mère, elle va confier son bébé, bon, à notre époque, ça va être à son conjoint ou au deuxième parent, et puis à sa communauté proche. Et nous sommes, comme le dit Sarah Blaffer-Dier, une espèce à maternage communautaire, contrairement à beaucoup d'autres primates, hein, où la mère reste extrêmement possessive pendant beaucoup plus longtemps. Ici, il va y avoir, à travers cette confiance qu'elle a dans son réseau de femmes et d'hommes qui sont autour d'elle, cette possibilité de confier son bébé et donc d'alléger la tâche maternelle. Et puis aussi, le soin maternel, s'il a pu fonctionner, c'est que les femmes avaient une certaine marge de manœuvre dans les groupes et qu'elles s'impliquaient à fond dedans et qu'elles étaient valorisées dedans. Parce que dans une espèce sociale comme la nôtre, le regard de la société du groupe d'appartenance ou des groupes d'appartenance sur ce que nous faisons est absolument essentiel. Et à partir du moment où le regard de la société va prôner la reproduction de masse, parce que j'ose même plus appeler ça de la maternité, mais une dévalorisation des gestes de maternage, ben c'est sûr que l'implication va chuter, sans compter qu'une fois que les femmes vont devenir sédentaires, elles vont plus déposer leur bébé. Mais comme l'agriculture implique énormément de travail, beaucoup plus que de vivre dans un milieu tropical où il y a moyen de circuler et de trouver la nourriture beaucoup plus facilement, l'agriculture va être plus prenante. Et donc, lors des récoltes notamment, les femmes vont être impliquées, les jeunes femmes vont être impliquées. Et donc là, elles vont déposer plus leur bébé, elles vont allaiter moins et elles vont avoir plus d'enfants, et la proximité avec les animaux et le problème des éjections animales va amener des maladies infantiles. Donc la natalité va exploser, ça tout le monde en parle, mais ce qu'on ne dit pas, c'est que la mortalité infantile explose aussi.
Et oui.
Donc, elles vont avoir beaucoup d'enfants et une mortalité infantile beaucoup plus importante. Donc petit à petit, c'est installé de manière insidieuse dans ce qu'on appelle les civilisations agricoles. À la fois la persistance de gestes très anciens, de support maternel et de bienveillance par rapport à la mère, et avec des hauts et des bas dans toutes les cultures, hein, parce que il ne faut pas voir tout ça en noir, hein, c'est pas, y a plein de subsistance et de solidarité qui vont rester, et une chance, hein, mais il va aussi y avoir progressivement, surtout quand ça doit devenir guerrier, une surveillance des femmes, une obligation de procréation, mais une dépossession aussi de leur vie, de leur statut, et une soumission à l'ordre établi qui va être instrumentée à travers les conjoints.
Et une dépossession de leur corps aussi, pour le coup.
Oui, évidemment. Pourquoi est-ce qu'on a dû inventer le devoir conjugal ? Faut être pas mal dépossédé de son corps pour dire qu'on fait ça par devoir pour l'Angleterre, les yeux avec un chapelet dans les mains, hein, franchement. Ben oui.
Pour le coup, ça répond aussi à un des aspects de l'instinct maternel, puisque souvent on dit aux femmes qu'elles doivent avoir un désir d'enfant, que ça doit venir, et pour celles qui n'en ont pas, que ça va venir de toute façon à un moment, parce que c'est comme ça. Ouais. Et finalement, quand je vous entends parler du devoir conjugal, j'ai envie de dire, oui, enfin, ce devoir conjugal, ce devoir maternel, quel besoin nous ont eu de l'imposer si généralement, pour reprendre la définition de l'instinct, l'ensemble de la population féminine de la planète voulait avoir des enfants tout le temps.
Oui, vous êtes là dans une définition de l'instinct qui est l'émergence du désir. Et de se projeter aussi dans un projet d'enfant avec se voir, se fantasmer en donneuse de soins et d'y trouver du plaisir. Parce que c'est, toutes les stratégies de reproduction dans les espèces, surtout dans les espèces évoluées, se basent sur les gratifications. Hein, d'accord. Donc et normalement ces gratifications ont dû fonctionner, même si nous avons eu une démographie assez basse jusque récemment. Ces gratifications ont dû fonctionner dans le passé. D'ailleurs, il y a tout ce qu'il faut, ça on pourra en parler tout à l'heure, mais ce que moi je vais appeler plutôt les ancrages biologiques de la reproduction de l'espèce, que nous avons en commun avec les mammifères et les primates, hein, parce que tout ça, nous avons reçu des cadeaux. Enfin, l'évolution ne se réinvente pas à chaque fois. Quand il y a des trucs qui marchent, elle les garde. La prolactine, c'est très très vieux comme hormone, l'ocytocine aussi. Hein, les endorphines aussi, c'est très ancien, toutes ces hormones-là. On n'a pas réinventé la roue, les sapiens, hein, on a fait ce qui marchait et on a continué. Ce qui est tout à fait nouveau, c'est notre énorme cerveau social et notre créativité technique. Et ce qu'il faut quand même remarquer, c'est si on regarde l'histoire récente, c'est-à-dire les derniers millénaires, la créativité technique a augmenté sans arrêt, surtout les derniers siècles, mais ce que je constate, c'est que les compétences sociales du dialogue, de l'empathie, de la reconnaissance des signaux sociaux qui devaient être installées à travers le maternage et puis à travers ce maternage groupal et puis cette instruction en famille, pour reprendre le mot, ou instruction en groupe de l'enfant et qui incluait l'enfant dans le groupe et puis où il acquérait les compétences techniques qui convenaient, je veux dire, se faisait à travers du dialogue, du langage, de l'acceptation, de la valorisation, quelle que soit l'activité. Je veux dire, tout ce que l'on fait, on le fait à travers un groupe qui reconnaît ce que l'on apporte. Hein, je ne suis formatrice que parce qu'il y a des gens qui demandent la formation. On est femme face aux hommes, on est enfant parce qu'on a des parents, on est parent parce qu'on a des enfants. Enfin, je veux dire, l'être humain est extraordinairement social. Et j'ai l'impression que nous avons dégénéré au niveau des compétences sociales, nous avons dégénéré. Et ça. Je veux dire, au point qu'on a dû dire à des femmes de faire leur devoir conjugal et de faire leur devoir maternel. Alors, c'est là où la notion d'instinct maternel a été instrumentalisée. Quand pendant des générations, vous confisquez à des femmes et puis vous ne valorisez pas ce qu'elles font quand elles ont des enfants, on prône la reproduction de masse, mais leur vie ne leur appartient pas, leur corps ne leur appartient pas, leurs enfants ne leur appartiennent pas. Enfin, c'est récent qu'une femme qui divorce garde le droit de voir ses enfants. Dans la génération de ma mère et de ma grand-mère, une femme qui divorçait ne voyait plus ses enfants. Donc, c'est vraiment, elle pouvait déjà divorcer sans être lapidée, ce qui était déjà un progrès. Il faut relativiser tout.
On part de loin.
Hein. On part de loin. On part de loin. Écoutez, 2000 ans, c'est rien, la lapidation. Enfin, on a tous connu, moi j'étais à l'école catholique, donc j'ai entendu quand j'étais enfant l'histoire de la femme adultère. Quoi. Bon, ben oui, mais il y a combien d'enfants, on est quand même dans des cultures catholiques, on entend ça, et voilà, lapidé, puis un jour on réalise c'est quoi être lapidé, quoi. C'est une mort lente, atroce, avec la haine de la communauté, on meurt dans la haine totale, enfin, et les autres femmes voient ça, donc elles vivent toutes dans la terreur. Hein, et alors, dans ce contexte-là, qui est des femmes actuellement, qui disent « je ne sens pas émerger le désir d'enfant », mais surtout, laissons-les tranquilles, elles ont autre chose à vivre. Je veux dire, il y a tellement de moyens d'exprimer son implication dans la communauté, tellement de moyens d'être utile à des adultes comme à des enfants. Moi, je connais des sages-femmes qui n'ont pas eu d'enfants et qui sont mais d'une ouverture de cœur extraordinaire. Même chose pour des institutrices, même chose pour des personnes âgées qui ont parfois moi j'ai un souvenir, ma grand-mère de cœur était, qu'on m'en appelait dans le temps, une vieille demoiselle, terme que je déteste. Elle était née en 1900. Et pour elle, c'était bien clair qu'elle ne voulait pas d'enfants. Je lui rends hommage d'ailleurs. Et c'était notre voisine. Et ça a été pour nous une grand-mère, mais absolument merveilleuse. Donc je veux dire, qu'est-ce qu'elle a passé là après une vie où elle s'était choisie finalement. Et ce qu'elle a donné là, elle l'a donné de son plein gré. Eh bien ça, c'est beaucoup plus important que de faire un devoir de reproductif. Et le mot instinct maternel a été tellement utilisé pour dire votre devoir reproductif que non, quoi. On n'utilise plus ça, on arrête avec ça, par pitié. Il y a tellement de moyens de s'impliquer, de se réaliser, d'être créative. Et puis de toute façon, on est tellement nombreux sur la Terre qu'on ne va pas insister pour que celles qui n'en veulent pas, celles qui ont d'autres projets de vie, parce que ça aussi, c'est exprimé par la négative. Elles ne veulent pas. Attendons, elles ont d'autres projets. On peut peut-être s'exprimer de manière plus respectueuse comme ça.
Tout à fait. Elles ne veulent pas, mais parce qu'elles veulent d'autres choses.
Oui, c'est ça.
Et c'est intéressant parce que, juste pour faire l'aparté là-dessus, ce qui est intéressant aussi, c'est de constater que c'est beaucoup moins problématique pour un homme. Mais il ne veut pas d'enfant parce qu'il veut faire carrière, parce qu'il veut diriger, parce qu'il veut... Ok, même si après on peut discuter de cette vision de la hiérarchisation des hommes, mais au-delà de ça, c'est pourquoi il y a vraiment ce côté où j'ai vraiment l'impression qu'il y a cette instrumentalisation, comme vous dites, oui, de cette expression d'instinct maternel pour justement encore une fois enfermer les femmes dans un rôle, les dominer, les contrôler, et ça c'est vraiment un des traits très forts de la société patriarcale.
Oui. Ceci dit, il y a des femmes qui veulent faire carrière aussi, simplement qu'elles vont devoir faire autrement. Et là, c'est vrai que c'est plus difficile. Moi, mon mantra quand mes enfants étaient petits, c'est j'ai une espérance de vie de 84 ans minimum et je ne suis pas obligée de prendre ma retraite à 60 ans. Donc, je me suis dit, je vais faire une chose à la fois. Mais c'est vrai que ça demande plus, la petite enfance des enfants demande plus aux femmes qu'aux hommes. Et là, on peut hurler à l'injustice. Là, je suis assez mitigée parce que, et ça dépend d'une femme à l'autre, je crois que je n'ai pas de normes à donner par rapport à ça. C'est comment recréer... Enfin, moi, ce qui m'a permis de continuer à travailler à mi-temps quand ils étaient petits et puis de plus en plus ensuite, c'est que j'ai pris appui sur la communauté, enfin, sur l'équivalent du groupe. Ce n'était pas le groupe pré-néolithique, évidemment, mais j'ai eu une ou deux gardiennes d'enfants, enfin, non, psycho-éducatrices, on dit maintenant, qui étaient absolument merveilleuses. Il y avait des grands-parents, il y avait des amis. J'avais une liste des babysitting extraordinaires pour aller faire de la plongée sous-marine, activité incompatible avec des enfants en bas âge. Voilà. Donc, il y a moyen de prendre appui sur la communauté pour faire d'autres choses. Et je crois aussi que, comme notre société est organisée, ça demande aux femmes d'avoir énormément d'organisation pour pouvoir vivre autre chose. On est en train de découvrir pour le moment qu'on a retrouvé des tombes de chasseurs, hein, je ne sais pas, avec des attributs de la chasse. Et puis, ils ont eu l'idée, la bonne idée, enfin, pré-néolithique, hein, donc on est vraiment dans des choses qui remontent à 10 000, 20 000 ans, donc avant l'époque historique. Et on avait toujours attribué cette tombe à un homme. Et puis, on réalise, là, en analysant le bassin, qu'en fait, non, c'est une femme. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez vu passer.
J'ai vu passer celle-là, c'était magnifique.
Oui, c'est ça. Et donc, je me dis, cette femme, est-ce qu'elle avait des enfants ou pas? J'en sais rien, mais probablement, puisqu'il n'y avait pas de contraception. Maintenant, peut-être qu'elle avait trouvé le truc. Peut-être qu'il y avait des femmes stériles aussi, ça arrive, ça arrive toujours. Mais manifestement, elle avait sa place puisqu'elle chassait. Maintenant, est-ce que c'était si difficile au pré-néolithique quand on vit dans des groupes de 35 à 45 personnes, on a envie de faire une partie de chasse, puis on confie son bébé à une autre femme qui allait et on y va. Actuellement, il faut s'organiser. Quand on allait un bébé, c'est une sacrée organisation. Hein. Il faut tirer son lait, il faut mettre le lait dans des contenants, il faut avoir un endroit où on accepte les dépôts de lait maternel. Bon, maintenant, en France, ça s'est acquis, mais au départ, c'était interdit. Donc, ça demande actuellement une sacrée organisation pour pouvoir faire autre chose que materner. Hein. Alors maintenant, c'est vrai que les premiers mois, il y a vraiment besoin, pour le bébé comme pour la maman, de ce lien d'attachement. Il y en a qui disent que ça peut être fait par d'autres personnes, mais c'est le sujet d'Elisabeth Badinter. Elle dit qu'il y a juste à le confier à d'autres et qu'il n'en mourra pas. Non, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose. De quoi elle se prive, je ne sais pas. Je vois ces influenceuses sur les réseaux sociaux qui disent qu'elles ont une nurse à la maison qui s'occupe du bébé pendant la nuit et que comme ça elles reprennent leur vie de couple tout le temps. Ben oui, il y a des classes privilégiées qui peuvent se payer ce service-là.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Est-ce que c'est bon? Est-ce que les enfants s'en sortent? Peut-être, je ne sais pas. Je n'ai pas envie de juger la vie personnelle des gens, mais que chacun fasse comme il fasse. Mais le problème, c'est qu'elles se montrent en modèle, quoi. Et ce qu'elles oublient, c'est que toutes ces nurses-là, ce sont parfois des femmes qui viennent de pays en voie de développement, des Polonaises, des Africaines, qui laissent leurs bébés sur place, leurs enfants sur place, pour venir s'occuper des bébés des femmes riches. Et retour à la case départ. Hein,
sinon... Alors, sur ce sujet-là, parce qu'en fait, sur ce que vous évoquez, il y a plein de choses qui viennent s'entrecouper. on se pose la question encore une fois pour les mères. Donc, moi, ce que je comprends de votre propos, c'est qu'on est bien d'accord sur le fait que le patriarcat va essentialiser le rôle de la mère, presque dans un rôle sacrificiel.
Ouais.
On a déjà vu, en effet, dans les études, dans vos écrits aussi, que oui, on ne parle pas de sacrifice. Il y a des solutions communautaires pour que la mère reste une femme et garde une vie à elle et qu'elle ne tombe pas dans justement la vision sacrificielle. Mais qu'en effet, pour le développement de l'enfant, il est quand même bon, ne serait-ce que pour l'allaitement, d'avoir cette présence maternelle dès le départ.
Oui.
Ensuite, moi, je peux que vous rejoindre sur le fait que ce qu'on peut voir sur le réseau, on peut s'ériger en tant que modèle, mais en effet, il y a des privilèges qui sont en jeu. Et si on utilise l'outil intersectionnel pour analyser la situation, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, ça n'est qu'une reproduction du patriarcat, mais par d'autres femmes. C'est-à-dire que je vais faire un schéma très grossier. C'est-à-dire que on a là où le système patriarcal et le système capitaliste se rencontrent, on a donc deux systèmes d'exploitation. On a la riche femme blanche qui va confier les tâches qui lui paraissent pénibles, en tout cas non reconnues comme valorisées dans la société actuelle, à une femme souvent racisée, ou en tout cas dans une situation plus précaire que la sienne.
Oui.
Et ça reste des systèmes de domination, mais qui s'emboîtent en fait.
Oui.
Et donc pour le coup, humainement, ça reste problématique.
Ça reste problématique, exactement. Et c'est la reproduction du modèle qui a été installé dès les grandes civilisations patriarcales, où les femmes riches utilisaient des servantes. Alors parfois, ces servantes étaient bien reconnues, les nourrices sur lieu étaient mieux nourries que les autres servantes, mais n'oubliez pas que les nourrices sur lieu, notamment et surtout en France, mais un peu partout en Europe, devaient abandonner leur enfant en assistance publique, où il avait 9 risques sur 10 de mourir avant un an. Hein. C'était les statistiques à l'époque de l'assistance publique. Donc, ça laisse rêveur, quoi. C'est derrière chaque femme qui confie son enfant très jeune à une autre femme, il y a d'autres enfants qui sont abandonnés. Et ça me pose question. Alors pourquoi faire des enfants? C'est si on ne veut pas assurer le service après-vente. C'est parce que être des enfants, c'est pas juste avoir un utérus qui fait un bébé et qui le sort. C'est aussi prendre soin, c'est aussi faire passer momentanément les besoins du bébé avant les nôtres. Et ça, c'est une école de vie extraordinaire. Alors, pourquoi est-ce qu'on a vu ça comme un sacrifice? Mais parce que ça fait des millénaires que les femmes sont sacrifiées à ça. Maintenant, si on regarde autrement, je dis, c'est pas possible que l'évolution des espèces ait amené les femmes à vivre comme ça. Et effectivement, ce n'est pas comme ça que c'était fait. Et je vois quand même des jeunes femmes, je m'inclus dedans à l'époque, qui avons découvert d'autres manières de faire que le discours sacrificiel qui nous était asséné par les générations précédentes, tout ça dans un besoin de reconnaissance, parce que quand une femme n'a pas la reconnaissance de sa société, de qui elle la cherche de ses enfants, ce qui est assez toxique comme relation. Hein, je me suis sacrifiée pour toi, j'ai sacrifié les meilleures années de ma vie, blablabla. Bon, ben, ça va quoi, t'avais juste à pas nous faire, hein, bon.
Oui. Non, mais...
oui, c'est vrai. Hein, alors, dans les années 60, c'était un peu plus difficile, mais bon, actuellement, bon, ça va arrêter avec ce discours-là, mais le discours sacrificiel continue et il est un peu nauséabond sur les bords. Donc, c'est là où, je veux dire, dans la petite enfance, il y a des femmes qui sont assez fortes pour se reconnaître, elles, et à se recréer un tissu social où elles sentent cette reconnaissance. Elles sentent cette reconnaissance où elles sont valorisées. Je trouve qu'il y a de plus en plus de groupes, comme les groupes de marraines d'allaitement, où il y a cette reconnaissance, sans tomber dans l'idolâtrie non plus, hein, mais qu'il y a des groupes familiaux aussi où c'est reconnu, où elles ont du soutien, où on les félicite pour ce qu'elles font, et on les admire aussi. Et je trouve ça important pour une jeune femme maintenant de pouvoir entendre sa propre mère dire « Mais qu'est-ce que tu fais ça bien, je t'admire pour tout ce que tu donnes à ton bébé, tiens, je t'apporte à manger pour deux voilà, c'est vraiment ce rôle d'enveloppe en fait autour de la jeune mère, et je trouve qu'il y a là des femmes d'abord qui sont assez fortes pour se lancer dans l'aventure en disant je vais m'impliquer, et qui découvrent donc ces gratifications qui ont été mises en place pour l'espèce, parce que tout ce qu'il y a autour de la perpétuation de l'espèce au niveau individuel, comme l'alimentation, la sexualité et l'enfantement, mais aussi à long terme, enfin de l'individu, pour que l'espèce se maintienne, et se maintienne avec toutes ses compétences à la fois sociales et techniques, mais sont liées aux gratifications. Et ça, quand on parle de la vie de couple, tout le monde est bien d'accord de parler des ancrages biologiques de la vie de couple qui sont la sexualité plaisante, mais on ne va pas la résumer à ça. Ça, c'est sûr qu'on peut parfois être absent, un des deux peut être malade, et il y a un amour qui subsiste au-delà de l'activité sexuelle. Hein, mais les deux vont ensemble, je veux dire. Mais dès qu'on parle de la maternité, ah non, là on arrive dans la maternité désincarnée, ça devient un choix intellectuel, une sorte de maternité hors sol, où on fait des bébés parce qu'on l'a décidé, c'est l'amour en plus, comme disait Elisabeth Badinter, alors qu'il y a des ancrages biologiques à la maternité, on n'est pas la seule espèce à reproduction sexuée qui n'aurait pas d'ancrage biologique, en fait c'est pas possible, et quand on connaît la physiologie, ce qui manque d'ailleurs à beaucoup de penseurs, de gens très intellectuels qui pensent la maternité, il leur manque la physiologie de la reproduction. Et dès qu'on creuse un peu, ben on tombe sur des hormones qui sont exactement les mêmes que celles de nos prédécesseurs dans l'évolution. Donc il y a la prolactine qui va favoriser les comportements protecteurs. Je dis bien favoriser, hein, parce que dans l'espèce humaine, il n'y a pas de déterminant. Hein, les hormones ne sont pas déterminants de comportement, ils favorisent les comportements. Et donc la prolactine va favoriser ces comportements très attentifs, protecteurs, très intuitifs, comme disent certaines mamans. L'ocytocine qui va avoir lieu dès qu'on prend le bébé dans les bras, on fait de l'ocytocine. D'ailleurs, même quand on fait un câlin entre adultes, on fait de l'ocytocine. Quand on chante ensemble, on fait de l'ocytocine. Donc les berceuses, c'est la totale. Hein. On a un bébé dans les bras et on lui chante une berceuse. Tout le monde fait de l'ocytocine. Et c'est très riche, nous en avons besoin. C'est un neuromédiateur qui va. Il y a des récepteurs à ocytocine dans notre cerveau partout. Et ça, c'est fantastique. Donc ça, c'est des gratifications importantes. On a cette envie de donner à l'autre, c'est vraiment les comportements amoureux, cette détente qu'on a dans l'ocytocine, c'est ça. Et puis on a aussi les endorphines qui vont donner cette béatitude, cet apaisement, et le bébé aussi, hein, parce que quand il tète, il fait des endorphines, il reçoit des endorphines, des ocytocines par le lait maternel, il fait de l'ocytocine lui aussi, et la digestion des caséines du lait maternel lui font faire des caséomorphines, donc tout va bien, quoi.
Les bébés sont perchés.
Oui, c'est ça, voilà. Et puis, oui, de toute façon, une autre façon de faire de l'anthropologie, c'est notre physiologie. C'est l'autre façon de faire de l'anthropologie, c'est de regarder la physiologie humaine. Si nos capacités à fabriquer de l'ocytocine et à en profiter s'est maintenue à travers des millénaires d'exploitation, de violence, de laisser pleurer les bébés emmaillotés avec des tétines trempées dans le calvados pour les faire taire et les saouler pour qu'ils ne pleurent pas pendant que la maman était sur les champs, tout le reste, hein, parce que début du 20e siècle on vendait encore du sirop de morphine, hein, pour les bébés qui faisaient leurs dents. Non, après ça on s'étonnait qu'il y avait des morts subites du nouveau-né, mais il faut voir ce qu'ils bouffaient aussi, hein. C'est du sirop de morphine, ça les calme bien, hein, ça les entraîne. Quand mon petit frère était, j'ai un frère qui est né en 70, on donnait encore des antihistaminiques aux enfants qui pleuraient beaucoup.
Ah oui, oui, oui. Oui,
ah oui, 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 ça les calmait bien aussi. Ça. Il faut surtout pas faire ça, ça atteint aussi le centre respiratoire. Donc, c'est quand même... Bref, tout ça pour revenir à notre physiologie. Quand on voit que tout ça, tout ce qui est reproductif, mais tient le coup à travers les horreurs des 5 derniers millénaires, y compris notre anatomie. Enfin, quand on regarde un bébé, une femme, un homme, tous ces gens-là, ils sont faits pour s'entendre et pour avoir du bonheur ensemble. Donc voilà, il y a ces ancrages-là, on peut aller les chercher. Et les femmes qui arrivent à les chercher, d'abord les couples qui arrivent à les chercher, ça tout le monde s'entend que c'est mieux, mais dès qu'on parle de maternité, ah là, il y a une interdiction. Et il y a comme une interdiction de penser, si vous voulez, de penser ça. Or oui, ça existe, ces gratifications maternelles, elles existent. Mais on est très ambigu par rapport à ça. Quand j'entends des discours par rapport à des femmes qui allaient un peu plus de 6 mois, on dit « oui, tu le fais pour ton propre plaisir ». Elle dit « mais ma grande, je fais ça pour mon plaisir depuis le début ». Mais oui, c'est comme si on reprochait à un couple qui a 60 ans passé, il dit « quoi, vous avez encore des relations sexuelles, vous faites ça juste pour votre plaisir, hein, plus pour la reproduction ». J'en ai fait ça que pour la reproduction, remarquez bien. Hein. Donc, mais non, mais il y a deux poids, deux mesures. En sexologie, on est beaucoup plus avancé qu'en maternologie, je veux dire, qu'en maternité, je veux dire. Hein. Donc, on n'est pas du tout hors sol, nous sommes des êtres incarnés. Et la maternité s'incarne dans ces ancrages-là, mais ils ont été empêchés d'expression.
Et là, au niveau de l'instinct maternel, bon, on a bien défini déjà que avant l'enfant, bon, le désir d'enfant, il y avait totalement une instrumentalisation qui s'est faite, qui a été imposée par le patriarcat. Et là, ensuite, après le, donc une fois l'enfant, que l'enfant est là, qu'on est dans cette maternité, moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a des facilitateurs biologiques qui se déclenchent ou non, selon l'environnement. Certains qui sont, il faut bien le dire, propres à la mère. Oui. Notamment ce qui concerne l'allaitement, vous parliez de la prolactine, et d'autres qui sont propres à l'espèce, si je comprends bien. On a notamment des études récentes qui ont montré que l'ocytocine et l'endorphine aussi, il me semble, sont bien sécrétées quand n'importe quel sapiens adulte passe du temps à prodiguer soins et protection et affection au nouveau-né.
Absolument, mais la prolactine aussi. Et ça, ça a été mis en évidence. Ah oui, 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 un homme qui fait du, qui a son bébé dans les bras, qui régulièrement en contact peau à peau ou au minimum dans les bras et qui sniffe son odeur. Vous savez que le cuir chevelu du bébé, enfin le cuir, c'est pas encore du cuir, mais l'odeur de la tête du bébé fait sécréter de la dopamine.
Ah, je savais pas. Bah, je comprends pourquoi je sens autant les cheveux de ma fille alors.
Ah oui, oui, oui. C'est vraiment. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis souvenu à quel point j'étais addict de l'odeur de bébé. Là, c'est, je l'ai sniffé, mais c'était. Et on voit souvent hein, quelqu'un qui a un bébé dans les bras, il se prend une petite pof d'odeur de bébé. Là, on fait de la dopamine. C'est aussi addictif que les réseaux sociaux, quoi. Non, mais c'est les addictions douces. Enfin, j'aime pas le mot addiction parce que le mot est devenu très, très, très péjoratif à cause des drogues, mais je me dis si on a autant d'addictions toxiques, c'est parce qu'on ne va pas assez chercher nos vraies addictions qui sont nos codépendances entre tous les âges. Et oui, un homme qui paterne son bébé, qui l'a dans les bras, qui le sniffe, tout ça, il fait de la dopamine, il fait de la prolactine, il fait de l'ocytocine, de l'endorphine lui aussi. Donc oui, d'ailleurs ça se voit à leur regard, hein. On voit des papas avec le bébé, là ils ont les yeux un peu flous, bon, ils sont pas vraiment en mode attaque quoi.
Non mais c'est intéressant de le dire, c'est que certes il n'y a pas d'instinct maternel en tout cas tel qu'il est prononcé, tel que l'usage de l'expression est fait. Maintenant il y a pour le coup quand même des comportements,
des facilitateurs
biologiques qui sont là.
Oui, oui.
Qui sont en place, mais qui ne sont pas que dépendants de la mère. Il y a une différence, bien sûr, homme-femme, sur le sujet. Au-delà de l'allaitement, finalement, il n'y a pas de différence outre mesure. Après, on va retrouver, parce que j'ai bien noté ce que vous aviez dit sur les pères, lorsqu'on laisse faire les pères, généralement, ils se rendent compte qu'ils y prennent plaisir et que c'est chouette, sous couvert qu'il y a eu le désir d'enfant réel dès le départ. Et là, ça me fait penser aussi au livre de Sylvia Giampino, Pourquoi les pères travaillent-ils trop, où justement, elle explique comment toute la société et tout le système patriarcal fait qu'on éloigne les pères le plus vite possible de ce milieu affectif et social et humain.
Oui, oui, oui. Et ça date des armées, hein, ça. Si, parce que la prolactine que tout homme va sécréter au contact du bébé fait descendre la testostérone. C'est tout à fait c'est réversible, hein, je vous rassure tout de suite, mais dans les
moi ça m'inquiète pas.
non mais c'est parce que c'est fluctuant et je veux dire, dans un premier temps où le bébé a besoin de beaucoup de soins, finalement quand le couple s'implique comme ça, tout le monde passe en mode prolactinémique et ça permet au couple de s'entendre et puis de passer en mode nounours tendresse tout le monde ensemble, voilà, c'est ça, intensif pour le bébé et puis après de reprendre ça. Mais dans les sociétés guerrières, c'était des comportements masculins qui étaient ridiculisés. Parce que moi j'ai toujours la vision d'Obélix dans le bébé de César, là, le fils de César ou Obélix qui donne le biberon, ce qui est tout à fait idiot, comme anachronisme, c'est fou. Il dit « j'ai l'impression que le monde entier me regarde en rigolant ». Et c'est vraiment ça, c'était comment est-ce que les guerriers, la grosse brute qui donne un biberon à un bébé, c'est vraiment raillé et ça a été ridiculisé parce qu'on avait besoin d'hommes avec des gros taux de testostérone. Or, un homme qui vit dans une collectivité de tout âge, avec des hommes, des femmes, des petites filles, des garçons, il fait toutes les hormones quand c'est le temps de les faire, et puis quand il y a besoin de bagarre et de défense, il est en mode testostérone, et puis c'est tout, il n'y a pas d'identification au guerrier, si vous voulez, il est guerrier occasionnel, comme une femme peut être chasseresse occasionnelle.
Ou guerrière occasionnelle.
Ou guerrière occasionnelle, absolument, absolument. Ça, c'est tout à fait. Mais oui, tout à fait, on peut passer en mode testostérone aussi, on n'en fera pas autant qu'un homme, on a une chance.
Mais... Oui, 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 non, mais bien sûr, on va pas refaire la biologie. Hein, mais...
Non, on ne refera pas la biologie, mais c'est beaucoup plus fluctuant qu'on pense et beaucoup plus mobile à l'image probablement de ce qu'était la vie avant qu'on hiérarchise tout et qu'on organise tout d'une manière extrêmement binaire, enfermée, et cet enfermement qui est pour tout le monde, hein, et pour le profit de quelques-uns seulement, parce que ce n'est pas on ne peut pas dire que l'espèce en ait profité, parce que comme je dis, nos compétences sociales ont quand même pas mal dégénéré, alors que nos compétences techniques ont continué à augmenter. Alors ça aboutit à avoir du matériel de guerre extraordinaire, mais c'est très dangereux, et pour le moment la survie de l'espèce va se jouer à ce niveau-là, pas au niveau de la survie immédiate des bébés, hein, mais au niveau de la survie de l'espèce. Si on continue sur cette lancée, il serait temps qu'on revoie notre copie, quoi.
Voilà. Je peux que vous rejoindre. C'est voilà. Derrière tout le propos. J'ai une petite question un petit peu plus précise sur cette histoire d'instinct maternel. Et là, je profite que vous soyez là avec toute votre expérience. Parce que quand on pense à l'instinct maternel, de ce que j'ai lu sur le réseau, des petites investigations que j'ai faites auprès des communautés sur ce sujet, souvent on me dit, on parle des mères qui ont un enfant et qui n'ont pas. Qui n'ont pas spécialement, qui n'ont pas envie de passer là du temps avec après l'accouchement, et on leur dit mais si, c'est ton instinct, laisse parler. Voilà, je suppose que ce sont des situations que vous avez connues dans votre parcours. Là pour le coup, comment est-ce que ça peut se produire, qu'est-ce qu'il y a derrière ça?
Oui, c'est ça. Bon, d'abord, il faut se dire que chaque femme qui devient mère maintenant émane d'une lignée qui a plus ou moins souffert de tout ce dont nous avons parlé. Donc, quelles ont été ses empreintes cellulaires? Est-ce qu'elle a été maternée, pas maternée? Quelles sont ses modélisations passives? Qu'est-ce qu'elle a vu faire autour d'elle? Est-ce que sa mère maternait pas? Et si elle maternait, est-ce que c'était sur un discours de type sacrificiel, horrifiant ou pas? Et donc, qu'est-ce qui va être convoqué quand elle va avoir son bébé dans les bras? Qu'est-ce qui va être convoqué de manière plus ou moins consciente au niveau de tout ce qui émane d'elle? Et on peut avoir des mauvaises surprises là. Et donc, il y a des femmes qui peuvent vraiment sentir que tout ce qui ressurgit, et parfois elles ne le maîtrisent pas, et parfois elles sont très très mal là-dedans. Et donc, et ça va arriver dans un discours de « je vois mon bébé, j'ai pas envie de m'en occuper, je me sens mourir si je m'en occupe ». Qu'est-ce qui est là? Ça demande qu'elle soit entendue. Et quand une femme dit « je n'ai pas envie de m'en occuper », la première chose au niveau de la communication, c'est pas lui dire « mais non, mais il est beau ton bébé, qu'est-ce qu'il dirait de toi si tu l'as ?» C'est une horreur de répondre ça, c'est « qu'est-ce qui se passe? De tu m'en parler? Je vois pour toi, ce n'est pas évident de voir ton bébé. » Et là, j'ai envie de raconter une anecdote, parce que j'ai travaillé en néonatologie, enfin comme intérimaire en néonatologie dans un hôpital à Bruxelles il y a un peu plus de 30 ans, mais ils étaient vraiment d'avant-garde parce qu'ils avaient déjà, ils pratiquaient déjà le contact peau à peau avec les parents. Et c'était un bébé prématuré dont la maman venait de temps en temps le voir de loin, mais voulait pas le toucher, voulait pas le prendre en peau à peau. Et alors qu'on lui proposait chaque fois, et à force d'insister, elle a dit « bon, oui, d'accord, je veux bien, mais 5 minutes alors ». On dit « oui, mais 5 minutes, c'est trop peu, quoi. Il faut au moins 1 heure ». Bon, d'accord, elle a les yeux au ciel, elle acceptait 1 heure, puis 58 minutes top chrono, elle nous demandait de l'enlever. On commençait à dire « elle n'a pas l'instinct maternel, elle ne veut pas, elle ne s'implique pas, etc. ». Et je sais pas pourquoi, j'étais en train de suivre des cours en communication à l'école des parents des éducateurs à Bruxelles, et j'ai eu l'idée de faire un constat empathique, bien bateau. Là, je dis, elle m'appelle, c'était moi qui devais remettre le bébé dans la couveuse, et je lui dis, mais je vois que c'est pas évident pour vous de l'avoir comme ça, tout contre vous. Et là, elle me regarde et elle dit, c'était la première fois que quelqu'un lui reconnaissait sa difficulté. Elle dit, non, c'est pas évident, parce que les yeux pleins de larmes, je vois tout ce qui m'a manqué. Oh mon Dieu. Moi, j'étais assise à côté d'elle. Hein. Quand j'ai dit, au lieu de prendre le bébé tout de suite, je me suis à côté d'elle et je mettais en pratique mes cours de communication en demandant, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai osé, et ça lui a donné l'espace pour se dire, je vois tout ce qui m'a manqué. Ah, je dis, ouais. Ah bon? Et puis elle ajoute, parce que chez moi, vous voyez, c'était surtout les coups.
Ah oui.
Pas les câlins, c'était les coups. Eh ben, je dis alors là, vraiment chapeau, d'oser quand même faire ça avec votre bébé 1 heure par jour, je dis bravo. Valoriser ce qu'elle pouvait donner. Et là, il s'est passé quelque chose, elle s'est détendue, elle m'a regardée, elle m'a souri, et là, le bébé s'est tendu pour croiser son regard. C'est la première fois que je voyais ce bébé-là, et là, ils ont croisé leur regard. Je me dis comme quoi, une enveloppe, un accueil, reconnaître la difficulté, valoriser ce qui peut être donné, c'est essentiel, plutôt que de poursuivre un idéal de l'instinct maternel, pitié, misère. C'est d'où vient cette femme, c'est chacune à son cheminement. Pour certaines femmes, ça prend du temps pour apprivoiser ça, parce que ce qui remonte quand elle avait ce bébé contre elle, c'était les coups qu'elle avait reçus et c'était le manque criant qu'il y avait en elle. Hein, et je vois des jeunes femmes maintenant, et c'est tant mieux, hein, mais qui sont attirées intellectuellement par ce maternage proximal, l'allaitement plus long et tout, mais souvent, elles donnent plus que ce qu'elles ont reçu. D'accord, ce qui n'était pas le cas il y a 10 000 ans. Hein. Ce qu'elle donnait, elle l'avait reçu. Sinon, elle n'aurait pas survécu. J'ai une femme qui devenait mère, si elle arrivait à l'âge adulte, c'est qu'elle avait été maternée, et suffisamment bien. Je ne dis pas idéalement, je dis suffisamment bien, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et donc, quand ils sont attirés par ce maternage-là, il va vraiment falloir faire attention à la norme sociologique qui a permis ce maternage-là au pré-néolithique, c'est-à-dire un groupe bienveillant et valorisant autour. Et la première chose d'un groupe, c'est de ne pas intruser ni de mettre des idéaux inaccessibles, c'est de reconnaître ce qui est et reconnaître ce qui est donné et de soutenir, mais pas de mettre des idéaux.
Donc, je trouve que c'est une très belle anecdote et une très belle façon de la conclure. Donc, l'instinct maternel, en termes de désir d'enfant, c'est totalement une construction sociale qu'on peut appeler patriarcale.
Oui, c'est ça. Disons que l'expression instinct maternel, je ne l'utilise plus parce qu'elle est sémantiquement pourrie. Hein, d'accord, donc il ne faut plus l'utiliser parce qu'on crée des débats qui n'ont pas lieu d'être.
Oui, et puis parce qu'à la décence, comme vous avez bien commencé par le dire, la décence est tellement différente pour chaque personne que voilà. C'est un peu compliqué des fois de bien être en phase sur le sujet.
Oui.
Et en revanche, et là je vais reprendre vos mots, en fait, il existe des facilitateurs biologiques qui vont s'exprimer ou non selon l'environnement, la culture... et le moment. Et finalement, la partie qui est propre aux femmes est une partie assez infime de l'environnement dont l'enfant a besoin pour se développer.
Mais il est à fois infime dans le temps d'une vie et du développement d'un humain, mais il est essentiel dans les premiers temps et aussi comme ligne de conduite, parce que même si l'enfant a d'autres figures d'attachement, il va quand même rester cette figure d'attachement première, qui est en général la mère. En général, la mère et très rapidement le père, enfin, ou l'autre parent, hein, ou l'autre parent. Donc, il y a souvent ce binôme autour de l'enfant qui va être très important. Maintenant, comment tout ça va se partager ? Je crois que les premiers temps sont vraiment essentiels avec la mère, là, parce qu'on est biologiquement différents, quoi qu'en disent certains. Que des femmes n'aient pas envie de vivre ces mois-là, ça c'est tout à fait leur droit, mais alors qu'elles ne fassent pas d'enfants, pitié, il y a suffisamment d'enfants qui ont besoin d'aide dans les... je veux dire, enfin bon, j'ai pas d'injonction à donner à personne, mais au moins qu'elles ne se mettent pas en modèle, quoi. Qu'elles se débrouillent avec leur statut social si elles veulent, mais qu'elles ne se mettent pas en modèle, parce que c'est aussi la reproduction d'exploitation, comme vous avez dit tout à l'heure.
Tout à fait.
Ça me pose quand même une question. Et puis, on reste quand même très très fasciné par le fait de faire un enfant, c'est-à-dire les 9 mois, utérin, la grossesse, l'accouchement, mais on dirait qu'après, il y a un blackout sur ce que nécessitent les soins à l'enfant, et ceux-là ne sont pas assez valorisés. Hein, quand une femme fait un bébé de 3 kilos, tout le monde lui apporte des fleurs, mais ce qu'on oublie, c'est qu'en 2 à 3 mois, elle va faire son propre poids en lait. Ça, c'est juste la partie biologique, parce qu'on fait à peu près 1 litre de lait par jour, hein, donc si on fait 75 kilos de lait en 3 mois, on dit qu'on est en congé de maternité, et ce mot-là, congé de maternité, ne restitue pas l'énorme implication, le temps que l'on passe, et puis il y a cette solitude aussi des mamans, cette solitude qui est aggravée par le confinement actuellement, et ça c'est une catastrophe, parce que de tout temps, quand une femme maternait de manière intensive pendant les premiers mois, elle était entourée, elle était vue, elle était reconnues, tandis que maintenant elles sont dans l'invisibilité sociale, donc elles ont l'impression de ne plus exister. Et que ce maternage premier du bébé donne une sensation d'inexistence sociale, ce qui dans une espèce sociale est très grave, sur le plan de la santé mentale c'est très dangereux comme, Donc vous voyez qu'il y a...
C'est vrai que ça me rappelle les propos d'une personne que je suis sur les réseaux qui s'appelle Ilana Weisman, qui écrivait que pendant 9 mois, la mère est au centre de tout.
Oui.
Et tout à coup, du jour au lendemain, elle n'est que un élément collatéral de l'enfant.
Oui.
Socialement parlant, j'entends.
Oui, oui.
Donc être entouré, mais aussi avoir de la relation qui reconnaît l'individu et son importance et sa place,
oui.
De mère et de femme.
Oui. Oui, oui.
Et puis ben, le père, il a pas, enfin le père ou l'autre parent du moins, et ben, lui il a pas couché, donc il va quand même aussi prendre sur lui un petit peu quand même. Hein,
oui.
Hein les gars, si vous m'écoutez,
oui, oui, oui.
Enfin les autres parents en tout cas, si vous m'écoutez. Et donc ouais, il y a vraiment ce côté où elle était centre d'attention, et puis pouf, il y a ce bébé qui est là, et il y a les besoins, il y a la fatigue, il y a les besoins biologiques, il y a les besoins physiologiques, et puis il y a cette attention tournée vers l'enfant.
Mm-hmm.
Donc il y a quand même quelques raisons d'avoir besoin de soutien.
Oui, mais oui, mais oui. À la fois de reconnaissance sociale, de valorisation et de soutien concret, hein, apporter à manger. Dans les espèces sociales, à maternage à haute implication parentale, on voit que le groupe s'implique auprès des mères. Quoi. C'est la lionne qui doit aller chasser en laissant ses petits, mais ça c'est une espèce nidifiée, les lionnes, c'est pas une espèce portée. Les primates sont une espèce portée, le petit est fait pour s'agripper au corps maternel pendant les premiers mois. Et chez les humains, c'est la même chose. On dit, tu vas en faire un bébé à bras, mais nous sommes une espèce à bras.
Exactement.
À la base, tu vas le rendre dépendant. Ben, nous sommes dépendants et codépendants, parce que le bébé change la biologie de ses parents, si vous avez bien compris la biologie, c'est comme ça. Et notre modèle, malheureusement, les modèles, c'est tout ce qui a été écrit dans la littérature, parce qu'on regarde toujours les classes sociales supérieures, donc la bourgeoisie a voulu imiter la noblesse qui confiait les enfants, enfin là au moins les gens étaient sur place. Au Moyen-Âge, la nourrice vivait dans le château, hein, gardait son enfant, tandis que dans la bourgeoisie, les nourrices ont dû abandonner leur enfant, ce qui était un cran de plus dans l'exploitation des femmes.
Et puis, à ce côté, souvent aussi, ce qui m'interpelle dans tout ça, et c'est pour ça que j'aime particulièrement votre propos et que je suis ravi de vous avoir à ce micro, c'est parce qu'on a souvent ce côté, et c'est un petit peu ce qui est dommage, où on regarde la situation uniquement de notre point de vue contemporain.
Oui, oui, oui.
Et c'est problématique parce qu'en effet, d'un point de vue contemporain, on pourrait se dire que ce qu'il y a derrière l'instinct maternel, ça n'est que de la martyrisation de la femme, ce qui
ouais.
est partiellement vrai.
Oui.
Mais en fait, si on revient au niveau de l'espèce, il y a quand même des choses biologiques qui se sont passées.
Ouais.
Et donc, on va oublier le mot d'instinct maternel, on va utiliser votre expression de facilitateur biologique, qui permettent justement d'avancer. Merci beaucoup pour cet entretien qui a permis, j'espère, d'amener de la nuance dans cette vision binaire qui était proposée, de dire si l'instinct maternel existe ou n'existe pas, de démêler tout ça
oui.
entre les éléments de langage, les éléments anthropologiques, physiologiques et biologiques.
Mm-hmm.
Donc, merci beaucoup, Ingrid Bayo, pour cet entretien.
Mm-hmm. Merci.
Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcast comme Pocket Cast, Castbox ou encore Apple Podcast. À très vite.